Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce premier épisode de la 9e saison, nous aurons Goblins 2, Anesan, Space Armada, Parsec, Venture et un dossier sur le ZX Spectrum. Bienvenue sur Rétrovision. Ils sont de retour, ils ne sont plus que deux, mais sont bien décidés à nous faire rire autant qu'hier, leur nom, les Goblins, avec cette fois-ci deux i. Après s'être attaqué au roi, c'est son fils qui va être visé cette fois-ci à travers un enlèvement. Fingus et Winkle sont chargés de retrouver sa trace. Alors que le premier est assez calme, diplomate et naïf, le second est beaucoup plus espiègle et farceur. L'équipe parfaite pour ce genre de mission. Le but du jeu reste similaire, à savoir une succession de tableaux avec une énigme pour chacun, sauf qu'une division s'opère à présent entre plusieurs niveaux. Chaque étape est constituée de deux ou trois tableaux et les énigmes sont moins linéaires. Il n'est d'ailleurs pas rare de devoir récupérer un objet dans un endroit pour l'utiliser dans un autre afin de passer au niveau suivant. Une place plus importante est accordée au dialogue. À plusieurs reprises, vous rencontrerez des individus et devrez discuter avec eux pour obtenir des conseils notamment. L'interface enfin a été complètement repensée. Cette fois-ci, plus de barres d'énergie. Vous avez maintenant droit à l'erreur. Vous disposez également d'un inventaire pouvant stocker moult objets et les deux gobelins peuvent réaliser les mêmes actions. Seul leur caractère donnera une issue différente à chaque action. Fingus, par exemple, est plus diplomate et plus logique. Il arrivera sans souci à se faire ouvrir ou faire fonctionner n'importe quelle machine. Mais, pour attraper des vers ou réveiller un soldat endormi, seul Winkle aura l'audace suffisante. La difficulté a été revue à la baisse, hormis vers la fin où il faudra parfois faire plusieurs fois la même action pour obtenir une réaction différente, voire même une série d'actions pour récupérer un objet et recommencer une ou deux fois. On n'évite malheureusement pas le concept « je clique sur n'importe quoi avec chaque personnage pour voir ce que ça va donner ». On progresse dans un monde illogique et les énigmes sont fidèles à l'ambiance. Ils sont donc de retour, nos chers petits lutins farceurs, et si le concept reste inchangé, le charme opère à nouveau grâce à ces deux petits bonhommes sympathiques et une interface bien plus agréable qui élargit les possibilités. Une aventure pour les amoureux des casse-têtes et des ambiances cartoon, même si la surprise n'est plus là. Winkle apporte du sang neuf à cet épisode, et Goblins 2 apporte les aspects non développés du premier opus, une très bonne surprise. S'il y a bien une chose qui n'a jamais tué un japonais, c'est bien le ridicule. Pour eux, c'est même une forme d'art. Dans les jeux vidéo, les kusoge sont l'expression du kitsch et du ringard dans sa forme la plus pure. Et c'est bien de cela dont il est question dans Anesan. Ce jeu met en scène des gangs de filles dans une guerre de territorialité. Loin de se vouloir sérieux, le jeu mise à fond la carte du kitsch et réussit même l'exploit d'en repousser les limites. Le soft de NEC Avenue s'ouvre sur une série de clichés nous narrant le passé de Ai, Shika et Makoto, trois amis d'enfance qui ont pour point commun d'avoir été les souffre-douleurs de toutes les pestes qu'elles ont côtoyées. Jusqu'au jour béni où est apparu Yuko, chef de gang qui régla le compte des tortionnaires de notre trio avant de prendre celui-ci sous son aile. Devenues adolescentes, les trois filles forment désormais le clan Hiden et partent à la conquête de la ville pour en prendre le contrôle, mais également pour retrouver leur bienfaitrice mystérieusement disparue. L'intro, accompagnée d'une musique essentiellement composée de bruits de moteur, met tout de suite dans l'ambiance. Hanesan s'articule sur les bases bien définies du beat'em up. Un personnage et des hordes d'ennemis qu'il faudra calmer à coups de baffe dans la tronche. Évidemment, girl power oblige, il sera possible d'effectuer quelques coups bas, comme le tirage de cheveux ou la frappe au sol. La jouabilité calque la mécanique bien huilée de ce style. Un bouton pour frapper, l'autre pour sauter, et les deux simultanément pour effectuer une attaque spéciale puissante mais énergivore. Au tout début de la partie, vous pourrez incarner au choix l'une des trois héroïnes pour attaquer l'un des quatre gangs proposés. Chaque personnage dispose de statistiques propres. Ai est un personnage équilibré, alliant vitesse et allonge. Chika est plus rapide, mais plus faible. Et Makoto, quant à elle, est le personnage le plus puissant, mais également le plus lent. Et vous voilà donc lancé dans les rues pour affronter des hordes de filles au style vestimentaire, proche des Bosozoku, sur des musiques typées rockabilly, on ne peut plus débile. Peu inspiré, les programmeurs n'ont pas cru bon de faire plus de 4 ennemis différents, dont seule la couleur change en fonction de la quantité de vie. Pour casser un peu la monotonie, certaines filles vous fonceront dessus avec leur scooter, ce qui n'est guère plus original. Arrivé à mi-parcours, vous vous retrouverez face à un premier boss, et c'est à ce moment précis que nous entrons dans la quatrième dimension. Oui, car si les ennemis de base restent totalement conventionnels, avec les boss, c'est autre chose. Vous aurez affaire à de sacrés spécimens, tels qu'une wannabe idol, une cracheuse de feu au strabisme extrêmement divergent, une épéiste sans soutif, sans oublier la fille obèse se prenant pour une ballerine. Et en plus, sur une version du Lac des Cygnes qui foudroierait Tchaïkovski sur place. Bref, la faune locale est assez remarquable d'un point de vue purement sociologique. Toutefois, en fonction de l'ordre auquel vous démantèlerez les gangs, ainsi que le personnage choisi pour cette mission, certaines des 10 boss rejoindront votre camp. Passé un stage, le temps qu'elles se remettent sur pied, celles-ci deviendront sélectionnables. Il est ainsi possible de choisir un maximum de 8 protagonistes. Il est d'ailleurs assez amusant de constater que le boss de mi-parcours du dernier niveau rejoindra votre camp. Mais, dernier niveau oblige, celui-ci ne sera jamais jouable. Idiotie supplémentaire au pur sadisme des programmeurs, le mystère reste entier. Entre chaque stage, notre héroïne se retrouvera dans sa chambre. De cet épicentre névralgique, on pourra sauvegarder ou charger sa progression, participer à des stages bonus bien cons ou acheter des accessoires. Les accessoires amélioreront les capacités du perso au niveau de la force, de la résistance, de la quantité de vie, etc. Des lunettes de soleil indiqueront quand et par où un danger véhiculé arrivera. D'autres accessoires n'auront d'autre utilité que d'être purement décoratifs. Papier peint, plantes dansantes, livres, etc. Vous pourrez même vous acheter une moto affreusement laide qui vous permettra de débloquer le second stage bonus. Les stages bonus, parlons-en justement. Le premier se résume en un concours de grimaces où vous devrez faire des moulinets sur le pad directionnel pour faire la grimace la plus horrible qui soit. Le genre de séquence tellement what the fuck, comme le disent si bien les anglophones, qu'elle provoquera chez tous les joueurs la même réaction. Le second, nécessitant une moto donc, est une course où il faudra arriver le plus rapidement possible au bout de la rue en s'approchant au plus près du mur du fond sans pour autant s'y exploser. Tout un programme. Véritable arme de destruction massive de neurones, Hanesan ne reste au final qu'un petit pétard mouillé. La petite demi-heure qu'il faudra aux joueurs débutants pour en faire le tour ne lui laissera pas de séquelles graves. Les 5 stages parsemés d'ennemis hésitants à attaquer et de boss non violents n'auront pas le temps de transformer votre matière grise en bouillie informe. Brillant représentant des Kusoge, ce jeu est avant tout un ovni que seuls les joueurs avertis et chevronnés essaieront. Ah, dernier petit détail en passant, le terme Hanesan signifie respectueusement sœur ou frangine et est donc le pendant féminin du mot Aniki. Bien joué, Anissi Avenue, vraiment bien joué. Au tout début des années 80, chaque console de salon qui se respectait devait avoir sa version de Space Invaders. Et si la licence Taito n'était pas disponible ou trop onéreuse, qu'à cela ne tienne, il suffisait de faire appel à une société de développement logiciel et le tour était joué. Surtout qu'en plus, à cette époque, il était possible de créer un clone de Space Invaders sans complications juridiques. Ceci étant dû à une pauvre protection des droits d'auteur, ce qui explique aussi le nombre hallucinant de clones qu'il y avait durant cette période. Et ce fut APH Technological Consulting qui se chargea de réaliser Space Armada en 1981 sur l'intellivision de Mattel. Vu que le principe du jeu était déjà tout trouvé, il suffisait, entre guillemets, de programmer un logiciel ressemblant à l'œuvre originale de Tomohiro Nishikado. Space Armada possède quand même quelques caractéristiques uniques par rapport aux Space Invaders originaux. Les protections ne pourront pas se régénérer entre les niveaux et les ennemis peuvent devenir invisibles, tirer des projectiles explosifs ainsi que des missiles à tête chercheuse. Le joueur peut aussi choisir de commencer un tour échoué à travers un mode d'entraînement. Selon Intellivision Productions, Space Armada était le premier jeu Intellivision à animer plus de 8 sprites simultanément grâce à une technique appelée Gram Sequencing.
Press fire to begin. Alert. Alien craft advanced.
Le micro-ordinateur TI-99 n'était pas réputé pour son catalogue de jeux très fourni. Néanmoins, les quelques titres disponibles sur cette plateforme avaient au moins l'avantage d'être variés. Ainsi, les fans de Shoot 'em Up auront pu s'essayer à Parsec. Dans ce jeu, vous incarnez le commandant du vaisseau Parsec et devrez faire face à d'hostiles créatures extraterrestres que vous devrez éradiquer tout au long de 16 niveaux dont seule la couleur du décor changera. Vous ferez donc face à différentes sortes de vaisseaux extraterrestres aux attaques bien diverses. Certains vous fonceront dessus pour entrer en collision, d'autres vous tireront dessus sans oublier les sournois qui apparaîtront par la gauche plutôt que par la droite. Il vous faudra parfois vous frayer un chemin à travers un champ d'astéroïdes. Pour vous défendre, vous avez votre bon vieux canon laser. Néanmoins, c'est un vieux modèle qui a une fâcheuse tendance à surchauffer, ce qui pourrait faire exploser votre vaisseau si vous êtes du genre serial tireur. De même, votre réservoir de carburant n'est pas sans fond. Il faudra donc bien gérer et optimiser vos déplacements si vous ne voulez pas vous retrouver à sec avant de pouvoir accéder aux grottes où vous pourrez vous ravitailler. Comme vous le voyez, Parsec est un titre assez classique dans son déroulement. Sa réalisation, somme toute basique de prime abord, cache en réalité de véritables petits miracles de programmation pour une machine comme le TI-99. C'est en effet l'un des premiers jeux de la machine à utiliser des sprites en mode bitmap. Le scrolling, bien qu'un peu lent, est malgré tout fluide et les éléments du décor sont affichés aléatoirement. Et si le TI-99 était équipé d'un synthétiseur vocal, les divers événements du jeu ainsi que vos prouesses étaient alors commentés par une voix féminine, très grésillante certes, mais assez amusante pour l'époque. Le jeu s'avère donc être un bon petit shoot 'em up dont le seul défaut notable est sa maniabilité pas toujours évidente, surtout au niveau des déplacements verticaux, ce qui se révèle parfois handicapant pour esquiver ennemis et astéroïdes. Nous voici en l'an de grâce 1981, devant un jeu d'aventure action sorti en arcade par Exidy. Et oui, même s'il est tout à fait décalé de parler d'aventure, ce jeu en emprunte juste l'ambiance. Il s'agit de Venture, et peut-être les plus vieux d'entre vous l'ont eu sur Atari 2600, ColecoVision ou même sur Intellivision. Vous êtes Winky et vous êtes un chevalier équipé d'un arc qui va devoir parcourir plusieurs donjons pour en voler, si on peut dire, leur trésor. Il y a en tout trois mondes qui vont se répéter indéfiniment pour remplir toute la barre d'objets. Ces trois mondes sont composés de quatre donjons. Alors pour commencer, vous devrez parcourir le premier monde composé de donjons tout cubiques qui n'ont a priori aucune forme révélatrice. Dans le second monde, on verra donc une pyramide au centre, un bâtiment en forme de Y, un autre hanté et un donjon de forme plus allongée. Le troisième monde, lui, est composé d'un donjon en forme de clé, d'une croix au centre et de deux autres formes plus ou moins indescriptibles. Venture se décompose en deux phases. La première, où vous devez rentrer dans un donjon tout en évitant les ennemis qui vous cherchent partout. Et la deuxième phase, où l'on est plongé dans le donjon, où se trouvent toutes sortes de pièges et autres ennemis, mais tout ça n'est rien comparé au monstre qui viendra vous attaquer si vous êtes trop longtemps dans un donjon. Gare à vos fesses. Ce titre n'a bien entendu aucune fin, comme beaucoup de jeux de l'époque. Graphiquement, pour 1981, il faut reconnaître que ce n'est pas mal du tout. Ce n'est pas un chef-d'œuvre artistique, c'est sûr, mais cela reste tout à fait honorable. Les bruitages et les musiques sont bien dans le ton de l'aventure, mais ne dépareillent pas avec les graphismes sobres et minimalistes. La jouabilité, quant à elle, est vraiment excellente. L'arc est très maniable et on dégomme sans problème les monstres tout au long de notre périple. On prend vraiment plaisir à arpenter les différents donjons, déjouer les pièges et éliminer les différents ennemis. L'auteur de cette rubrique a connu le jeu sur Atari 2600 en 1988 et il est toujours aussi heureux de se replonger dans l'aventure sans faire de mauvais jeu de mots, bien entendu. Alors tout est dit, si vous êtes fan de jeux d'arcade et de jeux d'aventure rétro, Venture est fait pour vous. Foncez !
You are about to witness Sir Clive Sinclair's quantum leap. He's come up with a computer to rival these machines at a fraction of their cost.
Vers la fin des années 70, début 80, l'informatique commençait à faire son entrée dans les foyers. Alors que les entreprises américaines comme Apple, Commodore ou Atari misaient sur la puissance brute, de l'autre côté de l'Atlantique, et plus précisément en Angleterre, les firmes basaient plutôt leur stratégie commerciale sur des tarifs agressifs, de manière à rendre leurs produits accessibles au plus grand nombre. La société Sinclair, spécialisée depuis le début des années 60 dans les produits hi-fi vidéo, s'est orientée vers la micro-informatique dès la fin des années 70. Galvanisée par le succès de ses modèles ZX80 et ZX81, la firme lance en 1982 le ZX Spectrum. Reprenant l'architecture du ZX81, articulée autour d'un processeur Zilog Z80A, le Spectrum se voit doté d'un chip graphique permettant l'affichage de 8 couleurs. Embarquant 16 ou 48 kilooctets de mémoire, la machine permit à des milliers de personnes de se familiariser avec l'informatique via la programmation en basique. Ainsi, le micro a permis l'émergence de nombreux talents et beaucoup de programmeurs ont fait leur début grâce au Spectrum. Vendu dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, le Spectrum sera également commercialisé aux États-Unis sous le nom TS-2068 par la société Timex. Pour pouvoir être vendu à prix attractif, l'ordinateur était fabriqué avec des matériaux de qualité plus ou moins médiocres, notamment le clavier qui était déjà critiqué dès le ZX80. De nombreuses révisions verront donc le jour pour corriger ces défauts. D'abord le Spectrum Plus en 1984 avec un clavier semi-mécanique, puis le Spectrum 128 en 1985 qui, comme son nom l'indique, intègre 128 KO de mémoire.
Why pay a Attention, Bond. This is the Sinclair ZX Spectrum Plus 2. It's a fully operational.
En 1987, sortiront les modèles Spectrum Plus 2 et Spectrum Plus 3. Ces deux micros sont les premiers à sortir sous la bannière de la société Amstrad, qui a racheté l'année précédente les actifs de Sinclair, alors en proie à de grosses difficultés financières suite aux échecs commerciaux de nombreux produits, dont le Sinclair QL. Bien que toujours estampillé Sinclair, le Plus 2 et Plus 3 s'apparentent très nettement à du CPC en reprenant le lecteur de cassette pour le Plus 2 et le lecteur de disquette 3 pouces pour le Plus 3.
The new Sinclair Plus 3 with built-in disk drive, £199. Sinclair Plus 2, £139. Both with free joystick and 6 free games.
Mais à cette époque, l'arrivée des Amiga et autres ST ne laissèrent guère de chance à ces modèles déjà dépassés technologiquement et qui ne peuvent même plus compter sur leur prix de vente pour poursuivre. Et Sinclair dans tout ça ? Eh bien, la firme existe toujours actuellement. Renommée Cambridge Computers depuis 1986, et ne comptant plus qu'un seul employé, son créateur Clive Sinclair, la société s'est spécialisée dans l'élaboration de moteurs électriques.